Il est 7h15, le zoom de France Inter du ciment coûte que coûte. Retour sur l'usine Lafarge en Syrie. Sarah Guibaudot, bonjour.
Bonjour.
L'enquête s'accélère, d'anciens salariés syriens sont entendus par les juges d'instruction parisiens.
Faisal a gardé la photo sur son téléphone, celle avec son gilet de sauvetage orange quand il a traversé la Méditerranée, après avoir versé les économies d'une vie à des passeurs. Faisal était opérateur dans l'usine de Jalabiya, prise en septembre 2014 par le groupe État islamique. Les derniers salariés, une trentaine, ont fui par leurs propres moyens. Lui avait quitté son service la veille. Lafarge, dit-il, n'avait pas anticipé.
En réalité, il n'y avait pas de plan, pas de message. Ils ont envoyé des mails pour dire que les salariés devraient se cacher dans les tunnels de câblage. Le vendredi 19 septembre, l'État islamique a aussi attaqué Kobané. Nous avons fui vers la Turquie. Nous avons garé nos voitures devant la frontière, pris nos sacs à dos et on s'est retourné pour voir l'usine. Et des flammes sortaient de l'usine.
Mais l'usine n'a pas été très endommagée. Le groupe État islamique aurait même écoulé le ciment qui restait. Avec le recul des djihadistes, elle sert maintenant de base aux forces de la coalition. En 2010, c'est un investissement tout neuf, un gros 680 millions d'euros. Un an plus tard, la guerre civile éclate. Jalabiya va se retrouver encerclée par des groupes armés. D'un côté, des Kurdes, de l'autre, des rebelles, dont des groupes islamistes, puis Daesh qui monte en puissance. En juin 2012, Lafarge fait évacuer ses expatriés et garde 250 Syriens. Les routes sont hérissées de checkpoints, il y a des kidnappings, Lafarge verse 200 000 euros en octobre pour 9 de ses employés. L'usine tourne, mais à quel prix? Écoutez cet ancien salarié, Anouche.
Les puits de pétrole étaient tous sous le contrôle de Daesh et ceux qui fournissaient le fuel, c'était des gens qui avaient des liens avec Daesh. Les voitures des employés étaient autorisées à entrer, il y avait quelques barrages sur la route, nous étions parfois arrêtés et retenus pendant une heure ou deux, mais une solution était toujours trouvée et ceux qui nous retenaient nous disaient « c'est bon, l'entreprise a répondu à nos demandes ». Quelle demande? De l'argent? Autre chose? Je ne sais pas. Mais je pense que c'était de l'argent.
Et de l'argent a bien été versé, Sarah. Lafarge l'a reconnu.
Oui, c'est à souligner. Après l'enquête publiée en juin 2016 dans Le Monde, le groupe demande une enquête à un cabinet d'avocats américains. Les conclusions sont accablantes. Christophe Ingrin, l'avocat de Lafarge.
La situation en Syrie, à cette époque-là, était extrêmement difficile. Elle évolue tous les jours. Il est décidé d'avoir recours à des intermédiaires qui, eux, sont en contact avec des groupes armés. S'agissant des groupes armés avec lesquels l'intermédiaire discute et arrive à des transactions, il y a tout type de groupes armés autour de l'usine et tous ceux que vous avez cités. Et le groupe a indiqué très clairement qu'il regrettait et qu'il condamnait ces erreurs inacceptables. Et il a mis en place des mesures permettant d'éviter le renouvellement de ces comportements tout à fait exceptionnels.
Pour être clair, à partir de novembre 2013, l'État islamique a fait partie des groupes arrosés par cet intermédiaire. Il s'appelle Firastlas, issu d'une riche famille proche du régime de Damas qui a fait défection en 2012. Il ne nous a pas répondu. En 2014, l'usine finit par tourner au ralenti. Le groupe État islamique s'empare de Manbij, à 50 km où logent la plupart des salariés. Mais il n'était pas question d'abandonner le site, se souvient Faisal.
Quand Daesh a pris le contrôle de Manbij, ils ont arrêté et décapité beaucoup de gens, des Kurdes. Donc j'ai déménagé à Kobané. Mais quoi qu'il arrive, ils continuaient à demander aux employés de venir à l'usine parce qu'ils sont comme les soldats qui doivent protéger l'usine. Il faut bien faire vivre sa famille. En Norvège, on m'a demandé pourquoi mon fils n'était pas allé à l'école. Quand je leur ai dit qu'il ne pouvait pas, sinon il aurait été bombardé, ils ne pouvaient pas imaginer.
Et c'est donc en Norvège que Faisal entame une nouvelle vie de réfugié. Il est venu à Paris répondre aux juges grâce au soutien de l'association Sherpa, où Marie-Laure Guilin espère que les salariés obtiendront justice.
Ces anciens salariés, comme des milliers de victimes de conflits armés, ont subi un préjudice énorme. Et c'est aussi essentiel que ces Syriens puissent avoir accès à la justice pour montrer que des acteurs économiques peuvent être impliqués dans le financement de terrorisme, mais aussi dans des conflits armés.
Merci Sarah Guibaudot. Le dossier de Lafarge, on en reparle demain à 13h20 dans Secret d'Info, l'émission de la cellule investigation de Radio France. Nous vous dirons précisément où en est l'enquête et ce que savait la France et le pouvoir syrien de cette situation. Ce zoom à réécouter bien entendu sur le site de France Inter.
France Inter.